Non, mais c'est trop marrant. Je viens de voir le clip de la majorité présidentielle pour les élections européennes. Alors, ils ont payé un mec, ils ont payé un publicitaire cher peut-être, pour prendre un clip où on voit le petit représentant de commerce, je veux dire Xavier Bertrand, qui cause dans le poste. Et ensuite, on voit des Français comme vous et moi, jaunes, blancs, noirs, jeunes, vieux, hommes, femmes, dont les lèvres bougent. Et c'est toujours la voix de Xavier Bertrand qui parle. Ça veut dire, c'est clair le message, hein, c'est clair, c'est pas la peine de parler français. Nous, on parle pour vous. C'est hallucinant de conneries, mais c'est vraiment excellent, surtout, surtout, chers AMG, ne zappez pas, regardez ça jusqu'au bout. Ça vaut son pesant de cacahuètes. On a le gouvernement et le président le plus rigolo qu'on ait jamais eu depuis longtemps, longtemps, longtemps. Je vous embrasse, salut, c'était Anne du Morbihan.
Puis ce matin, j'arrête pas d'entendre que la Corée du Nord a fait des essais nucléaires. Alors les Américains, ils attendent quoi? Attaquer? Contrairement à l'Irak, il n'y avait rien. Ils avaient attaqué pour rien. Bon, les Américains, faites quelque chose. Ils nous font peur, ces Coréens. Salut, c'était Saïd, 92.
Je vous appelle pour vous dire que vraiment, aujourd'hui, bravo, c'est vraiment l'émission géniale. Ça fait des années que j'essaye de comprendre. J'ai une vague idée de ce que c'est que ces lobbies. C'est tellement tordu tout ça. Comment expliquer quelque chose de tordu, rendu volontairement tordu? C'est à peine croyable. Du coup, moi, ça me coupe le sifflet. Voilà, je comprends pourquoi j'ai toujours été dérangeante avec mes questions, parce que dès que je ne comprends pas, je demande pourquoi. J'assume de demander pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi, qu'est-ce que c'est les subprimes, mais explique, explique. Voilà. Et en général, on n'arrive pas à expliquer. Voilà. Alors, on emmerde le monde quand on pose trop de questions, c'est bien vrai. Pour finir, moi j'ai deux slogans en ce moment, hein. Si tu ne veux pas subir, il faut agir. Et si tu ne te mêles pas de politique, la politique, elle, se mêle de toi et de ta vie. Voilà. Merci là-bas si j'y suis.
Non, Daniel, tu n'exagères pas sur l'Europe et les lobbies. Expliquer le fonctionnement réel de l'Europe, c'est ennuyeux et complexe, dis-tu. Et pourtant, cela peut être vital pour chacun d'entre nous. Et j'ai bien dit vital. Les médicaments, par exemple, ça soigne, mais ça peut tuer aussi. Donc leur autorisation de mise sur le marché, dite AMM, est donc un vrai problème de santé publique qui ne devrait pas être laissé aux industriels du médicament. Et pourtant, à Bruxelles, le médicament ne relève pas de la commission santé, mais de la commission entreprise et industrie, dont toutes les directions défendent la compétitivité des entreprises et leur accès libre au marché européen. Mais le plus fort, c'est que l'évaluation elle-même des médicaments a été déléguée à une agence basée à Londres. Et cette agence du médicament, dite indépendante, est en fait financée à 73%, eh oui, 73%, par les groupes pharmaceutiques. Ceux-ci versent en effet une redevance pour chaque dossier de médicaments présenté à l'agence. Et le rapporteur du dossier, nommé par l'agence elle-même, touche personnellement 50% de cette redevance. Chacun peut comprendre que les recettes dépendent donc du nombre de dossiers traités et sans doute acceptés. La revue médicale indépendante Prescrire écrit: comment expliquer qu'un nombre croissant de nouveaux médicaments soit si mal évalué, n'apporte aucun avantage, mais soit néanmoins pris en charge à des prix extravagants.
Ouais, salut Daniel, salut toute l'équipe de là-bas si j'y suis là. Hier soir à Grenoble, j'ai assisté à une conférence sur les européennes sur le thème de l'immigration. Enfin, et à un moment donné, j'ai eu un gars du MoDem, pour pas le citer, quoi. Et moi, je lui propose de démonter, puisqu'ils sont contre les centres de rétention à peu près tous, ce soir-là, je leur demande si on pouvait aller démonter les centres de rétention. Je dis comme acte politique, ça, c'est, voilà, c'est pas des paroles, on y va. Il me dit oui, mais ce que vous proposez, c'est antidémocratique. Alors moi, je me pose la question, est-ce qu'enfermer des gens parce qu'ils ont rien fait, c'est démocratique, juste parce qu'ils n'ont pas de papier? Est-ce que c'est ça, la démocratie? Chacun son bâton, quoi. Allez, bon, je vais aller manifester, il n'y aura pas grand monde. Et puis de toute façon, ça sert à rien tant qu'on fait que marcher pour rien. Bonne journée, ciao.
Salut Daniel, en 2004, tu avais rendu visite dans le Tarn aux quatre fondateurs d'associations des anciens appelés en Algérie contre la guerre. Tu sais ceux qui reversent leur retraite d'anciens combattants pour des actions de solidarité avec les populations victimes de la guerre, comme en Algérie ou en Palestine. Aujourd'hui, l'association s'est développée dans toute la France. Des contacts sont noués avec les vétérans pacifistes des autres pays et nous allons témoigner dans les lycées et les collèges. On peut nous retrouver sur le site 4acg.org, 4 comme le chiffre, et jeudi soir à Paris, au cinéma La Clé, à 19h, sera projeté le film « En finir avec la guerre », qui est consacré à notre association. Soyez nombreux à venir le voir pour en débattre. À bientôt.
Voilà, une bonne idée d'aller voir ce film que j'ai pas vu, mais c'est Mehdi Lalaoui, donc j'ai confiance. Ce 28 mai, à partir de 19h au Centre culturel La Clé, je le répète, 21 rue de La Clé à Paris dans le 5e, vous pourrez rencontrer des gens tout à fait sympathiques de l'association des anciens appelés en Algérie contre la guerre, 4ACG, ils ont un site. Et je suis bien content d'être un petit peu à l'initiative, enfin pas à l'initiative, mais d'avoir participé au développement de cette association d'anciens combattants d'Algérie qui, vous l'avez compris, consacrent leur prime d'anciens combattants, leur retraite d'anciens combattants à des œuvres de solidarité, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas ces sommes pour eux, mais ils les redistribuent. Et c'est une bonne façon, évidemment, de réfléchir sur ce qu'ils firent de force, bien souvent, dans leur jeunesse, et d'être fidèle à soi-même et d'essayer de passer quelque chose, la vie passante. On se demande parfois, avec l'équipe de là-bas, si j'y suis, qu'est-ce que vous faites en nous écoutant? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire tout en écoutant là-bas, si j'y suis? Alors, bon, la plupart du temps, la réponse qu'on se donne, c'est des choses bien ordinaires, des choses bien innocentes, mais pas toujours, vous allez en avoir un petit aperçu aujourd'hui avec Madame Michel et sa camionnette. Et puis alors, autre chose, malgré les grèves des chemins de fer, malgré un effondrement de terrain entre Paris et Amiens, malgré l'annonce des licenciements chez Goodyear, toujours à Amiens, eh bien, je vais m'efforcer d'arriver jusqu'à Amiens d'ici à ce soir, à l'occasion de la projection de Chomsky et compagnie, commencera à 19h30 à la salle de Wailly, que vous connaissez bien, amiénoise et amiénois. Et donc, je serai là pour le débat à l'issue de cette projection. Voilà. Donc, en route pour la camionnette de Madame Michel. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour les AMG et l'équipe de là-bas. C'est Françoise de Savigny-sur-Orge. Un fait à vous relater. Ma mère, 88 ans, a reçu au courrier, aujourd'hui, lundi, un avis précisant qu'elle allait recevoir bientôt 200 euros en chèque emploi-service à partir du 2 juin. Les élections approchent, n'est-ce pas?
Bonjour à tous. Je souhaite porter à votre connaissance un événement révélateur à plus d'un titre. Le 19 mars dernier, au centre Leclerc Méridien d'Ibos, près de Tarbes, l'ensemble des salariés de la librairie Espace Culturel ont participé à la journée de grève et de manifestation pour de meilleurs salaires. Du jamais vu depuis plus de 30 ans. Il leur a fallu beaucoup de détermination, de courage et un sens élevé de la dignité pour briser la loi du silence imposée jusqu'alors. Cela n'a pas été du goût des patrons. Trois grévistes sont aujourd'hui menacés de licenciement. Les employeurs osent invoquer des raisons économiques. C'est à la fois choquant et une insulte à l'intelligence. En fait, il s'agit ici comme ailleurs de briser toute volonté de résistance. La sanction qui frappe les uns est destinée à intimider et à décourager les autres. Une manifestation rassemblant 300 personnes a eu lieu à l'intérieur même du centre Leclerc, en solidarité avec les salariés. Un comité de soutien a été constitué. Il est à noter que la presse locale a bâclé l'affaire en une dizaine de lignes quand, dans la même période, elle n'a pas hésité à consacrer une pleine page à l'émotion suscitée par la disparition de chats dans la région. Sans commentaire. Il est important que de nombreuses personnes, quelle que soit leur sensibilité politique, mais pour qui les valeurs de démocratie, d'état de droit et de liberté ont un sens, témoignent leur solidarité avec ses salariés. En adressant un courrier de protestation à la direction du centre Leclerc Méridien, route de Pau, 65 420 IBOS. Enfin, une nouvelle manifestation est organisée vendredi 29 mai à 18h au rond-point du centre Leclerc. Merci.
Bonjour à tous les amis de là-bas si j'y suis. Bon, comme vous avez certainement déjà noté, le jeudi 28 mai, c'est le repère de Rosay. Donc pour faire simple et court, le sujet « Comment redéfinir l'échange en temps de crise ?» Bon, la crise n'est qu'une excuse pour se poser cette question. Donc si vous voulez débattre avec nous, poser les fondements d'un nouveau modèle, venez. Pour rappel, donc le rendez-vous c'est à 19h30, comme d'habitude au canon à pâte, rue Alsace-Lorraine à Rosay. Merci beaucoup.
Salut Daniel, c'est Eric de Bretagne. C'était pour savoir où était passé Laurence Parisot. Ça m'inquiète. Bon, salut.
On peut pas. Une femme, à mon avis, une femme mariée ou pas mariée, mais je veux dire qu'à un homme dans sa vie. Elle ne peut pas être jalouse d'une prostituée. C'est impossible. Ou alors c'est de l'enfantillage. Bonjour. Tu viens quoi? Même ma mère qui savait ce que je fais, elle me disait, mais t'as pas peur? T'as pas peur de te faire assassiner dans ta camionnette là? Et puis, et s'ils veulent pas te payer? Les putes, c'est quand même les putes, hein. T'as rien à faire. Je peux pas changer ça.
Personne,
non,
y a personne.
Non, non, il y a personne. Non, c'est une radio.
C'est une radio, laquelle?
C'est une radio.
France Inter.
France Inter.
Oh là là, France Inter, oh là là.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, si j'y suis avec Charlotte Perry, Madame Michel et sa camionnette.
Flight number 2, arriving from...
Ça, c'est la forêt de...
Senlis, Pontarmé, parce que là, ouais. C'est Senlis, hein. Et juste après, le prochain village, c'est Pontarmé.
D'accord. Ah oui, là, il y a un camion blanc, par exemple.
D'accord, c'est camion ça. Comme ça que vous cherchez? C'est une fourgonnette.
Ah, là il y a un camion vert. Enfin, une camionnette, je crois que c'est ça.
Ouais. Et voilà, Sarah.
Merci.
Merci,
au revoir.
C'est par ici.
Bonjour.
Il n'y a qu'un truc que j'ai oublié de vous dire hier, si j'ai un client qui arrive, vous m'attendez une seconde.
Oh bah oui, 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 évidemment.
J'ai besoin d'un argent.
Et ben voilà. Tout sourit, c'est le printemps, la nature est en fête. Allons dans les bois, ma mignonnette, tout près de Paris. La forêt de Senlis, ah la forêt de Senlis, pleine de muguets, de champignons, de noisettes. Allons voir la feuille par en dessous. Connaissez-vous cette expression? Allez voir la feuille par en dessous. La plupart de vous ignorent le sens de cette expression aujourd'hui. Sans doute que Michel, que nous allons rencontrer, avec qui nous allons passer cette heure, la connaît bien cette expression, même si ceux qui essayent de lui faire voir la feuille par en dessous ne lui font voir que le plafond de son camion, de sa camionnette verte. Vous avez déjà tout compris sur Michel. Qui est-elle, cette dame dans sa camionnette, dans cette forêt, à côté de Paris? Que faites-vous en nous écoutant? Eh bien voilà, elle fait son métier depuis longtemps, elle fait le même métier, et c'est ce qu'elle va nous raconter, ce qu'elle a bien voulu nous raconter. Elle nous avait envoyé un message une fois, suite à une émission, je ne sais plus très bien laquelle, mais elle s'était présentée comme telle. Voilà, je suis une prostituée, j'écoute là-bas si j'y suis, j'aime bien cette émission et je voulais vous faire savoir ceci, cela, des réflexions sur ce qu'elle avait entendu. C'est un personnage tout à fait classique, emblématique. Emblématique de quoi ? Ben, l'histoire de l'humanité, tout simplement. Pas moins, infirmière de la sexualité publique. Ah, ah. Vous vous souvenez, Griselidis Réal, notre ami Griselidis, qui se qualifiait ainsi. Je suis une infirmière de la sexualité publique. À chaque fois, ce personnage et cette activité et ces infirmières-là suscitent les mêmes débats, les mêmes silences, les mêmes tabous, les mêmes sourires, les mêmes ricanements et le même mystère, sur notre sexualité humaine, celle des hommes, bien sûr, mais celle de tous, quand même, plus généralement. On a à cela tous des réponses, on a en face de cela bien des silences, mais ce qui nous a le plus intéressé avec Charlotte, en rendant visite à Madame Michel dans sa camionnette verte, c'est son regard à elle. Son regard à elle sur sa vie, bien sûr, mais aussi sur notre monde et sur notre époque. Pourquoi est-ce qu'une dame comme elle n'aurait pas un regard tout aussi intéressant que nombre de spécialistes, d'érudits et autres sociologues autrement plus nobles que ces filles de joie avec qui les bourgeois sont si souvent si vaches? C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Madame Michel et sa camionnette.
Bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole. Parole, c'est fatigant pour les guivoles. Y'a des clients, y'a des salauds, y'a des clients, y'a des salauds, qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elles les cajolent. Parole, parole, faut pourtant qu'elles les cajolent. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous, croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous, croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole. Parole et menacée de la vérole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole. Parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût ta mère, que cette putain ne fût ta mère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
Donc vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème, vous
d'accord.
Ma radio. Je vis avec la radio. Hein. Alors j'écoute Mermet depuis que je travaille le jour. Et un jour, vous avez fait une émission là sur les ceux qui vendent à la sauvette là, les biffins. Ça m'a révolté parce que j'ai dit quand même, les pauvres, ils sont comme nous. Ils ne demandent rien à personne pour vivre. Ils essaient de trouver du pognon sans faire de mal à personne et on les emmerde.
Il y a longtemps que je n'ai pas eu affaire aux journalistes, hein, parce qu'en 2003, j'avais eu des interviews. C'était à cause de la loi Sarkozy à l'époque. Soi-disant, racolage passif. Alors, dans mon esprit, racolage passif, ça ne veut rien dire, parce que racolage, c'est l'action de racoler, comme n'importe quel verbe. Donc, racoler, c'est forcément quelque chose d'actif. Donc, ça voulait dire, en fin de compte, une tenue ostentatoire dans un véhicule. Tout le monde sait qu'on est là pour ça. Voilà. Même en dehors des clients, les gens qui passent, enfin, bon, voilà. Alors, voilà, alors c'était ça, mais vous savez, en fin de compte, c'est tombé un peu à l'eau. Hein. Il y a des endroits où c'est très mis en application, mais dans la loi Sarkozy, il avait promis, enfin, il s'était engagé, promis c'est beaucoup dire, mais il s'était engagé à ne pas toucher aux prostituées traditionnelles, c'est-à-dire des femmes comme moi. Il voulait surtout s'attaquer aux réseaux, c'est-à-dire les réseaux de black. À Vincennes, il y avait ici il y a deux blacks, mais c'est pas des réseaux, elles sont comme moi. J'ai des filles qui travaillent, bon, mais il y avait des réseaux de blacks à Vincennes. Alors, qui s'attaque à ça? Parce que là, la prostitution devient une victime complète, puisque il fallait qu'elle paye tous les jours pour avoir le droit de travailler. Alors, elle faisait les 3-8 à Vincennes. C'est-à-dire qu'elle travaillait deux par deux, et elle faisait les 3-8, c'est-à-dire elles arrivaient 8h du soir jusqu'à 4h du matin. Après, il y en a deux autres qui arrivaient de 4h à 11h midi. Et puis après, de midi à 8h. Donc, il y avait, ça faisait un camion, mais en fait, il y avait 6 filles. Et c'est un jour, un poulet du 12, il m'a dit, tu sais, ça va mal tourner. Si tu trouves une place ailleurs, trouve une place ailleurs, parce qu'on va virer tout le monde. Alors voilà, alors comme il m'avait prévenu, ben, avant qu'il vire tout le monde, j'ai eu l'opportunité de venir ici, donc je suis venue là, en fin de compte ça me faisait à peu près la même distance que chez moi, c'est-à-dire je suis à 75 km de chez moi, avant j'étais à 100, mais là j'ai pas d'embouteillage, le kilométrage est le même et je suis plus tranquille, j'ai pas d'autoroute à payer, en fin de compte je suis mieux là. Et vous pouvez dire mon prénom, je suis Michel, c'est mon vrai prénom, je n'ai jamais eu de nom de guerre, parce que les prostituées souvent se font appeler par un autre prénom. Mais moi, je suis en accord avec ce que je fais. Je n'ai pas honte de mon métier. Je n'ai jamais volé un centime à personne. J'ai toujours été correcte dans mon travail. J'ai rien contre personne. Je suis pas raciste. Il y a des bons et des cons partout. Moi, je manque les Noirs, les Arabes. Ils ont le même comportement que les Blancs. Il y a des bons et des cons partout. C'est tout. La seule chose pour laquelle je suis contente que vous me fassiez une interview, c'est parce que, quelque part, je voudrais défendre les prostituées en disant que ce sont des femmes comme tout le monde. Ce ne sont ni des fainéantes, ni des vicieuses, ni des dépravées, ni des super maquées, ni forcément des imbéciles, parce qu'on croit souvent qu'elles sont trop bêtes pour faire autre chose. Je l'ai entendu ça dans le temps, hein, moins maintenant. Parce que comme il y a eu des interviews, des réunions de prostituées, des choses comme ça, on s'est rendu compte quand même maintenant qu'il y a aussi des filles qui ont un cerveau, sans être, attention, je ne prétends pas être une intellectuelle, mais qui ont quand même la possibilité de s'exprimer normalement, et vous voyez, c'est pas, on n'est pas des débiles, contrairement à ce que beaucoup de gens croient.
Mais maintenant, on dit surtout que c'est des victimes.
Oui, parce que ça passe mieux. Les prostituées victimes, ça passe mieux. Comme ça, ça permet de les tolérer. Quelque part. Moi, je préférerais carrément que ça soit légalisé comme en Allemagne. Parce que quand même, là, il y a des jours interdits, par exemple. Ils interdisent le samedi et le dimanche à cause des promeneurs. C'est pas beau dans le paysage. Parce que même si ça devient légalisé, dites-vous une chose, dans la tête des gens, ça sera jamais légalisé. Il y a quand même un rejet social qui mettra peut-être des années à être et légalisé dans la tête des gens. Ça, c'est une autre histoire, ça. Les putes, c'est quand même les putes, hein. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas changer ça. Par contre, à ma grande surprise, là, quelquefois, il y a des gens à cheval, ce qui veut dire des notables du coin, parce que quand ils font du cheval, c'est quand même des gens de Neuilly qui me saluent gentiment. Bonjour, madame. On a tellement l'habitude d'être rejeté par tout le monde
que je suis surprise que ces gens-là me saluent. Et je l'apprécie.
Dans la forêt de Pontarmé, ça marche aussi bien?
Ah non, ça marche moins bien qu'à Vincennes. Mais enfin, vous savez, ça marche moins bien partout, hein, parce que j'ai gardé des contacts à Vincennes. Ça marche peut-être un peu mieux là-bas, mais quand même, c'est... La crise, on l'a subie aussi, ça va vous faire sourire. Mais oui, même avec des prix comme ça. Parce que le prix, ça prouve qu'on a une clientèle... On n'a pas une clientèle de riches, hein. Une clientèle d'ouvriers, de accidentellement de mecs un petit peu plus socialement privilégiés, mais enfin en principe c'est plutôt une clientèle de gens. On a des représentants de commerce, des, voyez, beaucoup de gens qui sont sur la route ou des gars du coin. Mais un mec qui gagne 4 000 euros, il va pas venir voir une fille en camion. Il a les moyens de s'offrir mieux. Si vous voulez, avec nous, on pratique des tarifs de base. Hein. On fait une fellation 20 euros, l'amour avec une fellation avant 40 euros. Ça n'empêche pas d'avoir des clients quelquefois à 50, à même à 100 euros. Mais c'est exceptionnel. En général, c'est 20 et 40. Mais ça dure 3 minutes. Hein. Je m'assois au bord du lit, le mec reste debout. Il n'y a pas de...
Debout, là, dans le camion?
Oui, ben, ils se mettent debout. Ah, ben, des fois, ils sont un peu grands, je les fais allonger, mais je préfère qu'ils soient debout. Ça me fait moins mal dans le dos. Et 40 euros, c'est l'amour. Bon, alors après, il y a les options. Vous avez des mecs qui demandent... Nous, on dit se faire sucer, c'est vulgaire. Mais enfin, bon, cunilingus, c'est ça.
Cunilingus, je crois.
Cunilingus, oui, voilà. Bon, alors là, on prend 20 euros de plus. Le mec qui veut le god, parce que ils vous disent, « Ah, je suis pas pédé, hein, mais t'as un god ?» Alors. Ils veulent le god. Là, on prend 80. Vous voyez, ça marche 20 euros par 20 euros.
C'est à la carte, quoi.
Un petit peu. C'est un petit peu ça, voilà. Un petit peu. Voilà.
Et du coup, la crise, alors vous aussi, vous la ressentez?
Ah oui. Oui, ça, c'est certain. C'est certain. On le ressent pas pour le prix, mais pour la fréquence. C'est-à-dire que j'ai des habitués qui venaient toutes les semaines. Maintenant, ils vont venir 2 fois par mois. Il y en a que je vois plus. Il y en a qui donnaient 100 euros de temps en temps. Ceux-là, on les voit pratiquement plus. Oui. Oui. Chômage. Même sans parler de ceux qui sont... Il y en a un que j'ai vu hier. Il me dit, tu te rappelles pas de moi? Je lui dis, excuse-moi, mais moi, je me rappelle pas des mecs avec qui je couche. Hein. C'est impossible. Ou alors, s'il faut vraiment que ce soit un habitué. Je lui dis, non, mais il dit, écoute, je suis pas venu depuis 18 mois. Je lui dis, comment veux-tu, je me rappelle de toi? C'est impossible. Et il me dit, ben, j'étais au chômage, il dit, là, je reviens parce que j'ai retrouvé un boulot. Vous voyez? Les mecs qui disparaissent, ils ont tellement de problèmes, ils sont tellement... Il y a ceux qui sont pas au chômage, mais qui en ont peur, à juste titre, parce qu'avec toutes les charrettes qu'on voit, là, les gens qui se font virer partout, c'est fou.
Voilà. Voilà, 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 on discute, on s'inquiète, et on calcule, on fait de très savants calculs pour mesurer les effets de la crise, les effets du chômage dans une région, sur l'emploi, sur le commerce, sur l'activité, etc. Mais, il y a aussi cette activité-là, qui fait que, ben, bien souvent, Michel, dans sa camionnette verte, attend, ce qui tombe bien pour nous, là-bas, si j'y suis, et France Inter en général, parce que ça nous fait une auditrice attentive, et compétente, et vigilante en plus. Mais enfin... ça met pas forcément de beurre dans ses épinards.
Moi, j'ai commencé en 62. Vous voyez, c'est pas d'hier. Hein. Et il y avait encore quelques filles qui étaient maquées par des Corses. Mais c'était très peu. Vous savez, les julots, ça, c'est de la légende. Hein. Les julots, ça fait 25 ans que ça n'existe plus. Hein. Il y avait les réseaux. Mais vraiment les julots, comme on en parlait après la guerre ou dans les années, même dans les années 60, ça, ça n'existe plus, hein. Non. Ça, c'est de la gestion recyclée dans la cam. Ça rapporte plus. Ah oui. Autrefois, il y a plein de facteurs qui étaient un frein à la prostitution. Par exemple, la contraception, ça a fait lever, comme par miracle, des barrières morales. Parce que moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de contraception. Les 5 premières années de prostitution, j'ai fait 11 avortements. Et les 2 premiers, j'ai failli aller en prison. Hein. Ah oui, les 2 premiers avortements, oui. C'était en 62, quand j'ai commencé, de 62 à 65, 66, c'était intenable. Hein. Moi, j'ai été mariée, j'ai eu 3 enfants en 3 ans. Avec mon mari, alors là, mon mari. Hein,
vous êtes mariée à quel âge?
Oh, j'étais mariée à 16 ans. Parce que j'étais enceinte. Quand je me suis trouvée enceinte, j'étais virée du collège. C'était au collège. J'étais virée du collège. Ah, mais à l'avortement, c'était exclu. Parce que pour avorter à l'époque, il fallait aller en Suisse. Et c'était tellement tabou, mes parents avaient peur. D'abord, ils avaient pour l'argent, déjà.
Ils faisaient quoi, vos parents?
Ah ben, mon père était fonctionnaire à l'EDF. J'étais cadre. J'étais pas du tout... je suis tombée là-dedans par les circonstances. Mais j'étais pas... J'avais eu une bonne éducation. J'étais même bon élève. J'aurais dû faire des études normales. Voilà. Et je vais vous faire rire parce que j'aurais bien aimé être ou journaliste ou... Ou alors là, c'était du domaine du rêve parce que il aurait fallu que j'aille très loin dans mes études, mais j'aurais bien aimé être psychiatre. Alors vous voyez, hein, la vie, c'est bizarre. Hein.
Alors vous êtes mariée à 16 ans et vous avez eu votre enfant?
Je suis mariée à 16 ans, à 19 ans, j'avais 3 enfants. Et à 21 ans, je suis foutue le camp, vraiment, j'en pouvais plus avec mes enfants. Hein. Je les ai mis dans une pouponnière qui était aux environs de Blois, puisque je suis de Blois. Et puis, on se met pas au tapin comme ça du jour au lendemain. J'ai commencé à... Nous, on appelle ça michetonner, c'est-à-dire que j'étais belle, hein, j'avais 20 ans. Et je suis arrivée avec la paille dans mes sabots, je connaissais rien du tout. Je connaissais même pas Paris. Et je suis allée me balader sur les boulevards, du côté de l'Opéra, etc. Alors, il y avait ce que moi j'appelais à l'époque des petits vieux, c'est-à-dire des gens qui avaient 50 ans. Pour moi, c'était des petits vieux quand vous avez 20 ans. Alors, il m'invitait à boire un verre, et puis il m'invitait... Je suis restée pendant plus de 2 mois comme ça. Puis il me disait, ben tiens, je te donne un peu d'argent, puis retourne dans ta province, parce que tu vas finir sur le trottoir. Et puis j'ai fini sur le trottoir, parce qu'un jour, il y en a un, il m'a dit, bon, c'est bien gentil, viens, je connais un hôtel, etc. Puis j'y suis allée, et puis voilà. Mais à vrai dire, ma seule terreur, c'était d'être enceinte. Ce qui est arrivé, d'ailleurs. C'était de me trouver enceinte. Les mecs, ça m'a pas fait peur. J'ai couché, ça m'a rien fait. J'avais tellement, je crois, souffert avec mon mari, qui avait été vraiment mon premier amour, j'étais comme morte. Ça me faisait rien. Et puis après, il y a l'appât du gain. Après, on se rend compte qu'on gagne tellement d'argent. Ouais. Ouais.
Vous gagnez combien à l'époque?
Oh, je me rends pas compte. Je peux pas vous dire. C'était fabuleux, je sais pas, je gagnais, dans une journée, je gagnais l'équivalent du salaire de mon mari.
Gagnais combien?
Je me rappelle pas, vous rendez compte, vous me demandez ça, mon petit, ça fait 50 ans, je peux pas me rappeler.
C'est quoi, votre mari?
Ah, il était dans le bâtiment, ouais, il était dans le bâtiment, tout simplement. Par contre, je peux vous dire, il y a un truc, parce que ça, vous voyez, c'est bizarre, les souvenirs, bien plus longtemps après... En 75, ça veut dire, oui, 75, 77, oui, parce que c'est en 78 qu'on a pu être emballé pour la garde à vue. C'est pour ça que j'ai des repères. Donc en 75, 76, j'avais une copine à l'Étoile et en rigolant, elle disait, ça y est, tu les as fait? Je disais, oui, ça y est, je les ai. Et c'était 1000 francs. Alors 1000 francs par jour, je me rends pas compte de ce que c'était à l'époque.
C'est pour ça que vous n'avez jamais cherché à faire autre chose?
Ah, j'ai jamais pensé à faire autre chose, moi. Non. J'ai jamais pensé à faire autre chose. On prend le goût de l'argent, hein. Moi, je gagne plus des fortunes, c'est fini. Je sais pas, je gagne 200-250 euros par jour. Oui, mais attention, c'est pas tous les jours, tous les... Bon, alors, si vous voulez, on peut vous donner une moyenne par mois. Vous travaillez pas avec les impôts. On va dire 3 000, 3 500 par mois.
Maintenant ?
Oui. Oui, maintenant. Il y en a qui gagnent beaucoup plus, hein. Et vous, vous gagnez quoi ?
1 500, 1 600.
Oui, mais vous, vous avez votre jeunesse. Mmh. Oui, vous dites que ça fait pas tout. Oui, ouais. C'est ça qu'on s'arrête jamais. On s'arrête quand on fait plus un rond. Parce que j'ai connu des tas de filles qui prenaient des affaires. Et quand elles voyaient ce que c'était tenir un affaire... Parce qu'une affaire, bon, moi je viens quand je veux, à l'heure que je veux, j'ai pas de... Bon, je fais ce que je veux. Par exemple, la semaine dernière, ça m'a toqué, je suis venue le lundi, je suis venue le mardi, mais jeudi, vendredi, j'ai dit, allez hop, j'y vais pas, je retournerai lundi. Donc je suis revenue qu'hier. Et quand vous avez un magasin ou une affaire, faut ouvrir, il faut une discipline, sinon tout va à volo. Et nous, on n'est pas habitués à la discipline, on est habitués à la liberté. D'ouvrir ou de pas ouvrir le magasin. J'ai mes godes, j'ai du sopalin, j'ai des capotes, c'est évident. C'est une qualité de top. Hein. Voilà, alors on en achète 2 boîtes, 3 boîtes, c'est bien, on n'est jamais en panne, quoi. Eux, ça fait leurs affaires. Mais ils peuvent qu'un. Alors, parler aux marchands de préservatifs de la crise. Alors eux, par répercussion, ils savent qu'on en... ils en vendent beaucoup moins, parce que les filles travaillent moins. Bonjour. Tu viens me voir ?
Elles sont jolies vos fleurs,
c'est des lilas de mon jardin. J'ai un lilas violet très foncé, puis un lilas blanc. Alors j'amène toujours des fleurs sur mon tableau de bord, ça fait moins triste.
Vous vous mettez toujours comme ça, vous êtes assise à l'avant de votre camion ?
Ouais, j'attends. Je fais comme Charles, j'attends. Elle est un peu usée celle-là, hein. Charles attend.
Ça, c'est votre tenue
Ah oui, 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 moi j'en montre pas trop parce que j'ai pas assez large d'en montrer trop. Je suis en body, je me déshabille. Pas, j'ai un body, moi.
Mais
jamais à poil, jamais. J'ai quand même 70 balais, hein. Alors, à poil, hein. Vous m'avez compris. Il y a beaucoup de femmes qui auraient peur. Même ma mère qui savait ce que je fais, elle me disait, mais t'as pas peur? T'as pas peur de te faire assassiner dans ta camionnette, là? Et puis, et s'ils veulent pas te payer? Elle me disait, maman. J'ai dit, ils me payent avant, ils ont l'habitude, ils payent toujours avant. S'ils payent pas avant, ils ont le fou dehors. Ils le savent, ils arrivent avec l'argent à la main.
Elle savait ce que vous faisiez, votre mère?
Ah oui. Oh, bon, on peut pas le cacher toute votre vie, c'est pas possible. Mais les enfants aussi, parce que vous leur dites que, bon, Barmède. Alors après, c'est Barmède de nuit. Puis il arrive un moment, quand même, il voit votre façon de vivre, il voit... Donc quand ils étaient en âge de comprendre, j'aurais dit, ils m'ont répondu, mais maman, on n'a rien à te reprocher, on n'a jamais manqué de rien, non, non. Ça s'est très bien passé. Ma mère aussi. Oui, bon, je peux pas dire que ça lui faisait plaisir. Non, mais enfin, bon.
Et vos enfants, ils ont quel âge maintenant ?
Alors, mes enfants, parlons de mes enfants. C'est pour ça que moi, je suis jamais tombée dans la cam. Mes enfants, j'en ai perdu un d'un accident de voiture, l'aîné. J'ai perdu le plus jeune du sida, à cause de la cam, l'héroïne. Il est mort il y a... C'est malheureux que je ne me rappelle même plus exactement de la date. Vous savez, c'est des événements tellement qui vous commotionnent que... Enfin, maintenant, il va y avoir 15 ans quand même, hein, c'est pas... Il est mort à 35 ans, 34 ans. Et puis j'ai l'autre, alors l'autre qui est, Dieu merci pour lui, en ménage depuis 16-17 ans. Il est en ménage avec une multimilliardaire, il a eu de la chance... Mais disons qu'il a tellement peur qu'elle apprenne ce que je fais et de la perdre, qu'on se téléphone de temps en temps pour avoir des nouvelles, mais ça s'arrête là. Voilà. Mais il m'a jamais dit, tiens, ma maman, moi, maintenant que je suis riche comme Crésus, non, non. Non, c'est pas grave.
Il fait quoi, votre fils ?
Il est tapissier à l'origine, tapissier décorateur. Il faisait de très très belles choses et c'est justement en exerçant son métier qu'il a rencontré cette femme-là parce qu'elle était cliente des Relais Château. Et puis voilà, c'est comme ça, la vie c'est bizarre. Ils sont elle est tombée surtout elle, amoureuse. Puis lui, il tenait de moi, il est tombé amoureux, mais surtout de l'argent. Attendez, je regarde ce que c'est. Hein.
Une voiture qui s'est arrêtée?
Oui, viens. Ah non, c'est un mec qui bavarde. Ah non, c'est un petit vieux qui vient me tenir la jambe. Non. Ouh, je suis avec quelqu'un. Bonne journée. Il s'emmerde, sa femme est morte alors. Sa femme est morte il n'y a pas très longtemps alors. Il a le cafard, ce pauvre vieux. Alors il vient me parler, je ne l'envoie pas au plot. Je lui parle un petit peu, j'essaie d'y remonter le moral. Vous savez, nous on est bonnes à tout, hein.
Une putain, c'est ce que disent les voisins. Elle fait le tapin du soir au matin. Il paraît que toute la rue lui est passée dessus. C'est pourquoi j'en conclus que les voisines sont cocues. Et toutes ces vieilles rombières qui font rien que nous insulter sont des langues de pute, dit ma mère. Et elle maîtrise le sujet quand elle nous bave dessus. C'est juste qu'elles sont vexées que ma mère on lui passe dessus et qu'elle on leur passe à côté. Parce que ma mère est tellement belle que les voisins font la queue pour coucher avec elle plutôt que de rentrer chez eux. Ils viennent claquer leur salaire dans les bras de ma mère pour la douceur d'une caresse et la chaleur de ses fesses. Et tous mes copains qui me traitent de fils de putain sont jaloux, c'est certain, qui sont des fils de boudin. Car même en étant payé, y'aurait pas un volontaire capable de bander pour le cul de leur mère. Parce que ma mère est une catin, c'est ce que disent les voisins. Elle fait le tapin du soir au matin. Mon père lui est un enfoiré, vu qu'il s'est barré le jour où il a découvert qu'une pute pouvait être une mère. Personne sait qui c'est, mais il serait du quartier, ce qui fait dire qu'il y a un voisin qui est le père du fils de la putain. Et les copains d'à côté commencent à flipper d'être peut-être de mes demi-frangins et des beaux-fils de putain.
Il y a 36 000 choses. Il faut avoir une écoute. C'est-à-dire que toutes les prostituées ne sont pas comme moi. Hein. Je suis pas l'exception, j'ai pas cette prétention. Mais je suis quand même un peu particulière en ce sens que j'écoute les gens. Même les clients, j'écoute des fois, ça leur fait du bien de parler. Il y a ça, il y a les malades, il y a les cinglés, il y a tout. Il y a toutes sortes de mecs. Il y a les masos, je les fais pas trop, je suis pas assez méchante, il paraît. Parce que quand je fais un maso, ma collègue, elle, et c'est payé pas de l'interviewer parce que vous allez voir comment elle est mal aimable. Alors elle, si elle fait un maso, elle a travaillé en Allemagne, dans les poufs et tout ça, en Autriche. Alors,
les poufs,
c'est les bordels en allemand.
Ah. Oui.
Alors elle sait s'en occuper, mais moi, un maso, je tape deux, trois fois dessus, je dis ça va, je vais pas trop fort. Oh, il dit alors, tu sais pas faire, tu fais des bandés. Mais il y a des, je sais pas, les fantasmes, c'est... Faut que je vous parle de ça aussi?
Ah oui, je veux bien.
Alors, c'est à l'infini. Le pire de tout que j'ai vu ici, j'ai arrêté de le faire parce que vraiment ça allait trop loin, c'est un ouvrier agricole. Je vous jure que je n'invente rien. D'abord, je ne crois pas que ça puisse s'inventer parce que c'est tellement dément. Un ouvrier agricole et il se prend pour une vache. Alors, il vient avec un gant, ce qu'on appelle des gants d'inséminateur. C'est des gants qui vont jusque-là.
C'est en haut de votre bras, là.
Voilà. Alors, ah, tu vas me mettre des paillettes. Alors, moi, je ne veux pas lui mettre le gant, vous devinez où. Hein. Je n'ai pas envie de le ressortir avec ce que vous pensez. Je n'ose pas vous le dire par respect pour vous. J'ai quand même du respect pour les gens. Hein. Alors, bon, moi, il me donnait 200 euros uniquement pour parler, dire je vais t'inséminer. Mais comme moi, je ne vais pas assez loin, je ne le fais plus. Mais j'ai une collègue, elle y a tiré 900 euros. Et il a dû, il laissait presque sa paye, à mon avis. C'est affolant. Enfin, ça, c'est le pire cas. Attendez, on ne voit pas ça tous les jours. Je n'avais jamais vu des trucs comme ça de ma vie. Il y en a un, il faut le branler avec des gants en caoutchouc. Il y en a un qui est arrivé un jour avec des gants dentelles. Un noir, un rouge, une paire de gants noirs, rouge et blanc. Je ne sais pas, je n'ai pas dû le satisfaire, je ne l'ai jamais revu. Il m'a dit, quelle couleur tu préfères ? Il fallait le masturber, avec des gants en dentelle. Je ne sais pas, c'est à l'infini. Je ne peux même pas vous dire tout ce que... Je ne sais pas, c'est... On ne peut pas décrire tout ce qui se passe dans la tête des gens. C'est hallucinant. Mais quand même, je tiens à préciser, 99% des mecs sont normaux. Hein. Mais il est évident qu'un type qui a un fantasme, entre guillemets, inavouable, il ne va pas demander ça à sa femme, elle va appeler police secours. Il vient nous voir, nous. Moi ou une autre, mais je veux dire, il vient voir une professionnelle qui a priori, pour lui, ne s'étonne de rien. Il croit qu'on s'étonne de rien. On fait semblant... Faut rentrer dans le jeu, parce que sinon, il revient plus. Voyez ?
L'utopie est à la politique ce que le fantasme est à l'amour. Vous connaissez cette expression. C'est souvent qu'on parle d'utopie et de politique dans cette émission. Aujourd'hui, on parle de fantasme et d'amour, surtout. Parce que, selon Michel, dans sa camionnette verte garée quelque part dans la forêt de Senlis, heureusement, on est rassuré, 99% des hommes sont normaux.
Aujourd'hui, ça va être un... Alors, voyez, vous êtes témoin. Voyez, personne n'est venu.
Non, pour l'instant.
Deux clients avant que vous arriviez. Alors, un que je connais, vite fait, bien fait. Puis un autre qui était... Alors, il sort de sa voiture, il traînait la jambe. Moi, j'ai cru qu'il avait... traînait la jambe, qui boitait. Il a un mal de chien monté dans le camion malgré mon petit banc, là. Enfin, je dis rien. Je dis, tu veux que je t'aide ? Oui, oui, ça va, je lui donne la main. Il me paye, il se déshabille, il avait une jambe de bois qu'il enlève. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Il dit, ça te fait rien ? Ah, ben je dis, non, moi, ça me fait rien du tout. Mais il m'a dit, par contre, je prends des médicaments. Bon, tu t'en doutes ? Donc, bon, voilà, bon, ben, il n'a pas bandé, il s'y attendait, il m'a donné 40 euros, et puis je l'ai un peu asticoté, et puis voilà, puis au bout d'un moment, il m'a dit, bon, ben, ça me fait plaisir, j'ai caressé une femme, bon, ben, ça a duré 5, 10 minutes peut-être, parce que, étant donné son handicap, si vous voulez, je voulais pas le bousculer, je voulais pas avoir l'air de, voilà, ben, il a remis sa jambe, et puis c'est cassé. Faut essayer d'effacer les problèmes de voyez, qui se sentent à l'aise, pas le, hein. On est là pour ça, pour accepter un peu toutes les situations. Je parle pas des anormaux, mais les gens qui ont des handicaps ou des problèmes ou des. J'ai à Vincennes, je l'ai perdu parce que évidemment, je suis plus à Vincennes. Il va pas, il sait même pas où je suis d'ailleurs. Je faisais un sourd muet et il était quand même débile léger. Parce que il venait, c'est un gars qui avait 45 ans facilement, mais il venait avec son papa, qui était un homme très âgé. Alors son papa s'arrêtait, il le déposait, puis par pudeur, il allait l'attendre un peu plus loin. Alors mais son père avait l'intelligence de l'amener voir une prostituée, il payait bien, il me donnait plus de 80 euros, je crois. Oui, il me donnait 80 euros. Voilà, ben j'ai toujours bien reçu, et puis je faisais des signes, et puis il faisait sa petite affaire, il était content. Parce que je considère que c'est aussi notre rôle. Pas d'accepter tous les vices, non, ça non, parce que... Mais d'accepter tous les problèmes, on est là pour écouter. Moi, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Il y a des filles, ils nous emmerdent avec leurs problèmes, je suis pas infirmière. Si, moi, je trouve que quelque part... Vous savez, il y a un vieil adage qui disait qu'on soulageait l'humanité souffrante. Bon, ça fait rigoler un peu maintenant, on dit « Ah, oh, soulage l'humanité souffrante ». On faisait surtout allusion certainement aux problèmes sexuels, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui ont des problèmes d'handicap de toutes sortes. J'estime qu'on est là pour pour les aider à avoir une sexualité normale. Parce qu'ils peuvent être handicapés de plusieurs choses différentes, mais être normaux sur le plan sexuel. Ce sourd-muet-là, dont je viens de vous parler, il était tout ce qu'il y a de normal sur le plan sexuel. Fellation, après il faisait l'amour, il était tout ce qu'il y a de normal. Donc, je trouve qu'on a un rôle à jouer. On prend du pognon, c'est vrai, mais bon, il n'y a pas que ça. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est 20 la pipe et 40 l'amour. Non? Les putes, c'est quand même les putes, hein. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas changer ça. Et pourquoi on a 90% de mecs mariés? Parce que c'est le côté pratique. C'est tellement pratique. Regardez, ils arrêtent la voiture, ils montent dans le camion, ils font leur petite affaire, ils regardent dans leur voiture, ils rentrent chez eux. Ils peuvent même critiquer les putes après, ça choque personne. Je veux pas être vulgaire, mais c'est très proche du mec. Non, on va pas être vulgaire. Alors, on va dire, c'est proche d'un mec qui a soif, qui rentre dans un bar, il se tape une bière sur le zing et puis il s'en va. C'est pareil, ça va pas plus loin. Et dans son esprit, c'est pas plus important que ça. On peut pas, une femme, à mon avis, une femme mariée ou pas mariée, mais je veux dire qu'à un homme dans sa vie, elle ne peut pas être jalouse d'une prostituée. C'est impossible. Ou alors c'est de l'enfantillage. Parce qu'on sait à quoi on sert. C'est pas parce qu'il l'aime pas, ça n'a rien à voir. Il aime sa femme, il aime sa petite
famille. Regardez, il y a quelqu'un là qui...
Ah!
Bonjour, ah ben, tu
prends non? Ouais, exactement.
Sur quoi?
Sur la prostituée.
Bonjour.
Interviewer?
Non, pas trop.
C'est anonyme.
Non,
justement, j'étais en train de dire que c'est sans problème pour vos épouses, pour vos petites amies.
Ouais.
C'est sans conséquence. C'est vrai ou pas?
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Vous êtes marié, monsieur?
Hein?
Vous êtes marié?
T'inquiète pas, c'est anonyme.
Moi, c'est anonyme.
Non, oui, c'est anonyme. T'inquiète pas.
Personne.
Non, il y a personne. Non, c'est une radio.
C'est une radio, laquelle?
C'est une radio.
France Inter.
France Inter.
Oh là là, France Inter, oh là là. J'ai connu France Inter.
Tu voulais faire l'amour?
Non, c'est juste comme ça, je suis passé, hein.
Ah, ouais, du coup, il veut plus venir.
Non, c'est pas ça.
Je vous laisse, si vous
c'est
voulez.
C'est 40 euros.
C'est 40.
Pour faire l'amour.
Oui. Non, ah ben non, c'est pas enregistré, moi je m'en vais.
Ah d'accord.
Alors, tu veux venir faire l'amour? Ah ben on va descendre, elle le
sait. Je moi.
Non, c'est pas ça.
Elle le sait qu'elle peut m'interviewer, mais pas me faire perdre des sous.
Ouais.
Voilà.
Je vous laisse à l'interview. Là, il fait beau, faut profiter du temps et tout. Je vous laisse.
Ah non, ils ont honte. Alors, voyez, vous avez la preuve flagrante. C'est pas grave. Mais voyez, ils ont honte. C'est dingue, hein. Jamais. D'ailleurs, je peux vous dire... que quand ils sortent, ils regardent s'il n'y a personne avant de descendre. Puis ils se dépêchent pour monter. Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, vous n'avez qu'à interviewer des mecs dans la vie courante. Personne ne vient voir les prostituées. Personne. Ah non. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai ma petite amie. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je trouve des filles. Je suis assez beau mec pour trouver des filles. Moi, je ne paye pas. Ça, c'est toutes les réponses. Et lui, il ne voulait pas avoir l'air de monter et de payer. Voilà, jeune fille. Même si vous descendez, vous voyez, il n'y a rien à faire. Hein. Si j'avais été toute seule, il serait peut-être monté.
Bon, ben, je vais vous laisser travailler, alors.
Ben, je ne voudrais pas, quand même pas être venue pour rien.
Merci à Madame Michel dans sa camionnette verte. C'était un reportage de Charlotte Perry. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Julien Michel, Coyen Guyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission. Assistée de Charlotte Perry, elle est partout. Et Agnès Lebot, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base judiciaire au 01 56 40 37 37. Ce soir, Amiens, salle de Wailly, 19h30, Chomsky et compagnie. Et demain, départ pour la Bolivie. Bolivie, une révolution en danse, une série de reportages avec Antoine Chao. Il est 16h sur France Inter.